Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la politique de sécurité du Japon et à la situation stratégique en Asie. Les nouvelles lois de défense votées l'an dernier au Japon sont entrées en vigueur cette semaine après avoir été approuvées par le Parlement en septembre dernier. Des lois plutôt impopulaires qui marquent un tournant dans la politique pacifiste du Japon. Le Premier ministre japonais entend muscler la défense de son pays face à la montée en puissance de la Chine qui pousse ses pions dans les mers avoisinantes et d'une Corée du Nord instable qui menace régulièrement l'archipel. Regard sur l'environnement stratégique du Japon avec nos invités par téléphone. Daniel Schaeffer, général en deuxième section, membre du groupe de réflexion Asie 21. Bonjour.
Bonjour madame.
En studio, Valérie Niquet, maître de recherche responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique. Bonjour.
Bonjour.
Et Guibourg de Lamotte, maître de conférence à l'INALCO, chercheuse au centre d'études japonaises associée à l'ECFR qui est le European Council en Foreign Relations et aux séries Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Avec la nouvelle loi sur la sécurité nationale, légitimant le droit d'autodéfense collective, le Japon est devenu un pays qui peut faire la guerre, renonçant à la politique mise en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui limitait ce droit au cas d'attaque extérieure. Certes, la constitution pacifiste continue à empêcher les Japonais d'expédier de grandes unités de combattants à l'étranger. En revanche, même s'ils ne sont pas directement visés, si par exemple un navire militaire de leurs alliés américains est attaqué en haute mer, ils pourront riposter, voire tirer des missiles pour dissuader l'ennemi. Est-ce que l'on doit parler de tournant historique ou finalement de simple étape dans la longue marche du Japon vers une modification du système d'après-guerre ? Valérie Niquet.
Alors là, évidemment, en quelques années, depuis le retour au pouvoir du Premier ministre Abe, c'est vrai qu'il y a eu ces lois de défense, mais il y a eu toute une série de décisions qui ont été prises progressivement. En 2013, un conseil de sécurité nationale, un texte d'orientation stratégique pour la première fois dans l'histoire du Japon. Également, très important pour la suite, une levée du tabou sur les exportations d'armement, même si elle n'était pas aussi interdite qu'on le disait auparavant, mais en tout cas maintenant, le Japon se positionne sur ce secteur également. Donc on est dans une série de lois qui progressivement, effectivement, sont destinées à redonner au Japon. Alors si on prend les termes officiellement utilisés au Japon, c'est que pour que le Japon puisse avoir une stratégie pacifiste plus proactive, donc un meilleur engagement aux côtés de leurs alliés en Asie, mais également au-delà. Et ça répond aussi à une accusation qui a longtemps été faite au Japon, notamment aux États-Unis, d'être en quelque sorte un free rider, de profiter de la défense offerte par les États-Unis pour ne pas investir suffisamment pour sa propre sécurité. Donc le Japon aujourd'hui revient sur cette position-là et il a évidemment l'ambition d'être reconnu comme une puissance normale avec de très très grandes limites évidemment encore aujourd'hui. Et le grand débat dont on pourra peut-être parler aussi, c'est de savoir si le Premier ministre après ou à l'occasion des prochaines élections qui vont avoir lieu à la Chambre haute à l'été prochain va véritablement s'engager dans la révision de la Constitution, ce qu'il espère toujours faire, ce qui est très très évidemment aléatoire, mais avec d'éventuelles alliances avec d'autres partis. Donc c'est un peu aussi pour Abe tirer une croix sur la période de l'après-guerre et reprendre une position plus normale, encore une fois, du Japon sur la scène régionale et internationale.
Une réaffirmation, en quelque sorte, Guibourg de Lamotte.
Alors oui, effectivement, c'est un tournant important au sens où en effet on a une nouvelle étape, c'est-à-dire que le Japon désormais peut faire des choses que jusqu'à présent, depuis 1972, il n'avait pas le droit de faire, c'est-à-dire défendre son allié attaqué. Ceci dit, ce qui est très important, c'est qu'on a beaucoup dit bon, le Japon désormais peut faire la guerre. Non, en fait, ça reste sujet soumis. Ça suppose une attaque toujours, une attaque cette fois qui n'est plus directe vers lui, mais qui peut être une attaque contre un allié. Évidemment, il y a une évolution, mais ce qui est important néanmoins, c'est de voir tout ce que le Japon continue de ne pas faire, en fait, et qui fait qu'il reste dans la légalité, dans la constitutionnalité même, et qui continue à respecter l'article 9 de la Constitution, formellement à ce stade, parce qu'évidemment, en pratique, des questions se poseront, mais là, le gouvernement élu devra trancher en fonction de la situation à laquelle il aura à faire face. Donc, si on prend par exemple les exportations d'armement, bon, c'est soumis à... c'est d'abord, c'est pas l'exportation... c'est du co-développement de systèmes système d'armement essentiellement, éventuellement l'exportation, mais c'est surtout, en fait, c'est soumis à l'intérêt en termes de sécurité pour le Japon. Donc c'est rattaché toujours à la sécurité du Japon. L'usage de la légitime défense collective, eh bien de la même manière, c'est si l'indépendance, la survie du Japon est en cause. Donc évidemment, on peut dire que ce sont c'est formel tout ça, mais bon, ben le droit est formel, et donc c'est ce qui fait que le droit est respecté en l'espèce.
Alors, on parlera de l'éventuelle révision de la Constitution. Daniel Schaeffer, je me tourne vers vous, un commentaire.
Bah écoutez, je suis entièrement d'accord avec ce que viennent de dire ces dames. On est effectivement dans un contexte essentiellement défensif, mais qui va quand même assez loin, hein, puisque en dehors de l'apport du soutien logistique qui est apporté non seulement aux forces américaines en opération, mais aussi à d'autres forces étrangères qui pourraient être l'Inde ou l'Australie, en dehors de ça, il y a quand même des actions de défense qui sont prévues, telles que la défense par missile, la guerre anti-sous-marine, la sécurité maritime et d'autres opérations qui sont hors de la zone d'intérêt immédiate du Japon, c'est-à-dire tout ce qui ressort de ce que les Américains appellent les opérations militaires autres que la guerre, military operations other than wars. Et donc là, on rentre dans tout ce qui concerne la lutte contre la piraterie, les opérations de maintien de la paix, les secours militaires également internationaux dans le cas de catastrophes naturelles. On rentre complètement dans ce schéma-là.
Donc un éventail.
Voilà tout ce que je peux ajouter à ce qui a été dit.
Merci, Général Schaeffer. Valérie Niquet.
Oui, alors simplement ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura de toute façon des limites. Il faut une approbation du Parlement toujours aussi pour cet engagement. Et il faut noter que le ministre de la Défense, le jour, donc le 29 mars, lorsque les nouvelles lois sont entrées en vigueur, a immédiatement déclaré que de toute manière, les forces d'autodéfense n'étaient absolument pas prêtes à accomplir ces nouvelles missions. Rien ne sera sans doute fait avant l'été pour éviter de réveiller une éventuelle hostilité. Donc il y a encore de grandes limites. En ce qui concerne les exportations d'armement, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Guibourg de Lamotte. Mais par exemple, on voit que le Japon s'est positionné sur ce marché du siècle des sous-marins australiens et que, à la fois pour des raisons techniques sur lesquelles je ne pourrais pas me prononcer, mais beaucoup pour des raisons stratégiques avec un discours de relations triangulaires entre les États-Unis, les trois alliés, le Japon et l'Australie, eh bien, son positionnement n'est pas si mauvais, bien que, évidemment, jusqu'à aujourd'hui, il n'ait pas l'expérience des exportations d'armement. Donc, c'est vrai qu'il a fourni également des gardes-côtes aux Philippines, au Vietnam. Donc, on voit que la coopération, d'une manière très consciente pour développer, resserrer les liens stratégiques, notamment avec les pays d'Asie du Sud-Est et peut-être l'Inde, est quelque chose qui est aussi derrière l'esprit de ces lois.
Guibourg de Lamotte.
Oui, absolument, c'est ça. L'idée du Japon, donc derrière ces lois, derrière les évolutions de la défense qu'on observe, y compris l'exportation des lois, c'est en effet de resserrer le maillage de ses alliances, de ses interactions avec l'étranger, donc de renforcer les partenariats, donc en fait tout ce qui permet de faire contrepoids à la montée en puissance de la Chine. Et donc c'est en ça que le Japon peut rattacher ses évolutions à la protection, à sa sécurité en fait. Donc pour compléter ce que disait le général Schaeffer, les forces d'autodéfense peuvent faire beaucoup de choses, participer à la lutte contre la prolifération, intervenir dans des catastrophes naturelles, etc. Ça, toutefois, ce sont des choses qu'elles pouvaient déjà faire. Simplement, ce qui est très important, c'est ces grandes lois, on a beaucoup dit, elles changent énormément de choses, etc. C'est vrai, mais ce qu'elles font surtout, c'est qu'elles rationalisent un système de la défense existant et elles créent un cadre pérenne à des interventions. Alors, il y a une petite extension, effectivement, le soutien logistique qui pouvait auparavant être fourni à l'armée américaine dans une crise régionale, et bien maintenant, peut-être fourni à d'autres armées également, alliées, et pas seulement dans une crise régionale, mais dans une crise qui a des répercussions pour la sécurité des Japonais. Vous voyez, donc effectivement, il y a eu une expansion, mais tout ça reste donc soumis à beaucoup de protection et c'est donc du soutien logistique. Alors c'est vrai que les munitions, par exemple, font partie du soutien logistique qui peut être fourni et d'autres choses, mais on sort en fait des ambiguïtés de choses qui avaient été prévues dans des dispositifs ad hoc antérieurs pour des cas de figure particuliers, mais qui en fait revenaient à faire des dispositifs sur mesure en fonction des circonstances, ce qui n'était pas très positif sur le plan de la démocratie, c'est-à-dire ça ne donnait, il n'y avait pas de lisibilité dans le système juridique. Alors, il y en a un peu plus.
Valérie Niquet, après ça, on reparlera du contexte aussi bien au Japon, hein, de ces lois et savoir voilà si oui. les mesures sont populaires.
Alors simplement un dernier point sur pourquoi ces lois aussi, c'est que évidemment une des, si ce n'est peut-être la principale motivation, c'est également de resserrer les liens, le partenariat de défense avec les États-Unis, qui était en attente de cette évolution au Japon, et la volonté de la part de Tokyo de donner des gages, n'est peut-être pas la bonne expression, mais enfin démontrer à Washington qu'ils étaient prêts véritablement à évoluer pour garantir sur le long terme cet engagement des États-Unis dans la région, qui continue de consister, enfin pour le Japon, l'élément principal de stabilité et de sécurité dans la zone.
Donc faire montre finalement d'une certaine bonne volonté du côté japonais, surtout, et peut-être je me tourne vers vous, Général Schaeffer, que les États-Unis sont en campagne électorale et qu'on entend beaucoup de choses, notamment venant de Donald Trump, qui commence à trouver qu'il faudrait que les alliés américains en Asie prennent davantage en main un certain nombre de choses. Général Schaeffer.
Oui, oui, tout à fait, mais ce n'était pas la peine d'attendre l'arrivée de Trump pour ça, puisqu'il n'est pas, d'abord, il n'est pas encore là, mais déjà, avec le discours d'Obama devant l'Assemblée nationale australienne en novembre 2011, lorsque Obama a présenté son projet de recentrage des forces américaines dans le monde, en ramenant 10% des forces en Atlantique vers le Pacifique, déjà à ce moment-là, et dans le cadre d'une réduction du budget de la défense américaine, qui est quand même de 555 milliards de dollars, il faut le rappeler, mais quand même diminution de budget, les Américains ont voulu impliquer davantage les pays de la région dans leur propre défense. D'où le renforcement d'une part avec le Japon, et d'autre part le renforcement avec notamment les Philippines, la Malaisie, pour Singapour qui est un allié traditionnel. Mais c'est également une des raisons pour lesquelles le Japon a été obligé de renforcer un petit peu ses moyens de défense.
Tout à fait.
Alors... donc en quelque sorte, ces pays de la région, également avec l'Australie, mais ces pays de la région deviennent, on va pas dire des supplétifs, mais des parasupplétifs de l'action américaine en Extrême-Orient. Quant à Trump, effectivement, les Japonais ont du souci à se faire, de même d'ailleurs que les Européens de notre côté, hein, puisque Trump a quand même dit que les Américains engageaient beaucoup trop de moyens et dépensaient beaucoup trop de leur budget de défense pour la défense de pays à l'extérieur des États-Unis.
Alors, et comme le disait le général Schaeffer, évidemment, Trump n'est pas encore élu, en tout cas, on est en campagne électorale, et les uns et les autres donnent leurs idées sur la politique étrangère. Et venant de Trump, c'était quand même important de savoir un petit peu comment il se positionnait du côté républicain. Alors, la nouvelle loi sur la sécurité nationale, donc entrée en vigueur au Japon, elle a été précédée, ou en tout cas, une fois qu'elle a été votée, des manifestations. On sent un certain un clivage avec la population japonaise. Certains quotidiens nippons sont même jusqu'à évoquer le déni de démocratie imposé par Shinzo Abe. Valérie Niquet, vous ne semblez pas...
Oui, alors effectivement, il y a eu des manifestations importantes, surtout au cours de l'été, également parce que la loi a été votée en deux temps, à la Chambre basse et puis à la Chambre haute. Mais il y a eu de grandes manifestations importantes au cours de l'été, et puis un peu moins importantes, mais assez insistantes également au cours de l'automne. Alors des manifestations qui rassemblaient un public soit relativement âgé, c'est-à-dire on avait un peu l'impression que c'était la queue des mouvements 68-art qui avaient été extrêmement violents et importants dans les années 60 contre le traité d'alliance, les mouvements pacifistes très puissants au Japon. Et il y avait aussi beaucoup dans ces manifestants de jeunes femmes, de jeunes couples avec des enfants, avec des slogans « Nous ne voulons pas faire la guerre, nous ne voulons pas que nos enfants meurent à la guerre ». Le Parti communiste japonais, qui est évidemment très minoritaire, mais qui a une certaine audience tout de même dans certaines régions. Bon, énormément d'affiches indiquant nous ne voulons pas devenir un pays qui peut faire la guerre, donc tout un discours. Mais en réalité, cette opposition s'est relativement vite apaisée. Mmh. Elle n'a pas empêché l'adoption, le vote de ces lois. Et la popularité de Abe même si elle a été touchée par ces manifestations et la crainte de voir le Japon engagé dans un risque de guerre éventuellement, ce qui à mon avis est pour le moment très très irréaliste, est assez rapidement remontée. Elle est également touchée par des questions économiques, mais la popularité du Premier ministre a relativement peu souffert finalement de l'adoption de ces lois, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs sans doute rien ne sera fait concrètement. On parlait de l'action du Japon au Sud-Soudan, où il participe aux opérations de maintien de la paix. Il est très peu probable que le Japon mette en place son droit d'utilisation des armes pour défendre ses alliés dans le contexte, par exemple, du Sud-Soudan. La grande crainte du Japon, évidemment, c'est d'être responsable d'une mort, même ennemie, entre guillemets, hors de son territoire, et de reprovoquer un grand sentiment de rejet dans la population. Il y a un fond dans la population japonaise de pacifisme isolationniste, en fait, de vivre dans une bulle qui est finalement, en dépit de la stagnation ou de la crise économique que le Japon a connue, est extrêmement confortable et relativement coupé du monde, assez peu touché par les bouleversements qu'on peut ressentir ici en Europe, par exemple. Et donc, c'est plutôt cet élément de repli isolationniste sur soi-même qui pèse dans les oppositions à tout ce qui pourrait obliger le Japon à s'engager trop directement sur une scène extérieure qui inquiète.
Donc, une certaine crainte, finalement, Guibourg de la Motte.
Oui, absolument. Je pense qu'il y avait aussi la volonté de signifier qu'en fait, pour beaucoup de gens, c'était l'article 9 qu'on voulait protéger. Donc, on manifestait un attachement à l'article 9, indépendamment même, en fait, du contenu des lois à proprement parler. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout de même une législation assez complexe, il faut bien le reconnaître. Et la plupart des gens, disons, ont manifesté leur attachement à l'article 9 et au pacifisme en général, sans avoir vraiment, probablement, été regarder précisément les, et puis par défiance de monsieur Abe, de sa personnalité, etc., puisqu'effectivement c'est quand même ce sont plutôt des gens de gauche qui ont manifesté, donc des personnes qui de toute façon n'aiment pas beaucoup monsieur Abe, donc parce que les textes, encore une fois, en eux-mêmes, évidemment que le gouvernement a fait les choses correctement et de manière à respecter l'article 9, accompagné par l'équivalent du Conseil d'État, disons, qui veille, dont c'est la mission de préserver la Constitution, enfin de veiller à ce que les nouveaux textes soient conformes à la Constitution. Donc il peut pas y avoir d'écart en tant que tel, si bien qu'effectivement ces manifestations, bon, elle manifeste avant tout à monsieur Abe qu'il ne faut pas aller plus loin, et puis que la résistance est là en quelque sorte. Mais bon, la majorité de la population est attachée à l'article 9 et ne veut pas son changement. En même temps, une grande partie est sensible à la menace chinoise, la comprend, et donc comprend qu'effectivement, il faut pouvoir, si un missile survole le Japon, il faut effectivement pouvoir l'abattre, qu'il aille vers San Francisco ou qu'il aille vers Tokyo, enfin, indépendamment de débats de cette sorte.
Alors, menace chinoise, c'est une chose. On parlera peut-être plus en détail dans la deuxième partie de l'émission de la situation régionale et des défis qui se posent au Japon et des raisons de faire donc évoluer cette législation. Général Schaeffer, vous souhaitez rajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit ?
Deux petites choses. La première, c'est qu'il ne faut pas négliger la menace nord-coréenne qui, à mon avis, est beaucoup moins raisonnable que la menace chinoise, si on peut parler de raisonnable. Et puis une petite précision en ce qui concerne les opérations de maintien de la paix et les consignes d'ouverture du feu. Lorsque l'on est dans une opération de maintien de la paix, ce ne sont pas les lois nationales du pays qui entrent en vigueur, mais ce sont les consignes qui sont données au niveau du commandement des opérations de l'ONU. Donc c'est pas la même chose, quoi.
Guibourg de la Motte.
Oui, alors à ceci près que le Japon se réserve le commandement de ses forces dans les opérations de maintien de la paix. Ça fait partie de ses spécificités précisément, c'est qu'il ne veut pas être sous commandement intégré, justement pour éviter ce qu'il appelle l'association avec la force, et donc un usage qui jugerait illégitime et contraire à l'article 9 de la force. Ça fait partie précisément des limites.
Valérie Nicard.
Des limites, oui, effectivement. Et les nouvelles lois permettent en théorie désormais la défense collective, c'est-à-dire que les forces japonaises pourraient utiliser la force, y compris pour défendre des troupes alliées dans le cadre d'opérations de maintien de la paix, mais c'est lui qui décide, et donc ils sont extrêmement prudents sur ces sujets, même si, encore une fois, la législation vient d'évoluer à ce sujet.
Guibourg de la Motte.
Juste pour préciser, quand je parlais de missiles qui iraient vers San Francisco, c'est en effet, merci Général, de missiles nord-coréens que je parlais, pas de missiles chinois. C'est en effet le type de scénario envisagé.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Daniel Schaeffer, Guibourg de la Motte et Valérie Nicard dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la politique de sécurité du Japon et la situation stratégique en Asie. Nous retrouvons nos invités par téléphone. Daniel Schaeffer, général en deuxième section, membre du groupe de réflexion Asie 21. Valérie Niquet, maître de recherche, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique. Et Guibourg de Lamotte, maître de conférence à l'INALCO, chercheuse au centre d'études japonaises. Également à l'ECFR, le European Council on Foreign Relations, c'est aux séries Sciences Po. Nous avons évoqué dans la première partie de l'émission, donc cette nouvelle loi sur la sécurité nationale qui vient d'entrer en vigueur au Japon, c'était cette semaine. Valérie Niquet, vous parlez d'une situation, pour comprendre dans quel contexte cette nouvelle loi s'inscrit, vous parlez de situation régionale très dégradée en Asie.
Alors effectivement, ça peut paraître curieux parce qu'on n'est pas en Asie dans la situation qu'on peut connaître au Moyen-Orient et ou avec les attentats terroristes en Europe. Mais depuis quelques années, et notamment depuis la fin des années 2000, on est tout de même en Asie dans une situation où on a une puissance chinoise idéologiquement très isolée sur la scène internationale, contrairement, je parle de l'aspect idéologique, et un régime relativement fragile qui a tendance à rechercher vers les aventures extérieures un booster à la légitimité du parti communiste chinois, et qui donc s'est lancé dans à la fois un discours de puissance et une volonté d'affirmation de puissance, notamment sur les mers, en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale, face à ses voisins, qui est profondément déstabilisateur. C'est le cas avec le Japon, avec ses gesticulations qui ne cessent pas, même si elles ont un peu ralenti ces derniers mois, autour des îlots Sengaku, qui sont occupés, enfin administrés par le Japon depuis la fin du 19e siècle, mais que Pékin revendique depuis quelques années. Mais c'est véritablement un test de puissance, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas les Senkaku, il y aurait sans doute un autre motif de tension avec le Japon. Et on a le même type de stratégie d'expansion ou d'imposition de la puissance chinoise en mer de Chine, avec l'occupation d'une série d'îlots et de remblayage d'îlots. Donc tout ceci crée un climat de profonde instabilité, avec une puissance chinoise aussi qui renforce considérablement ses capacités militaires, même si ses capacités restent très inférieures à celle des États-Unis, évidemment. On voit donc une inquiétude généralisée en Asie face à la puissance chinoise, mais avec tout de même une coupure entre l'Asie du Nord-Est, évidemment la Chine, la Corée du Sud dans une moindre mesure, puisqu'il y a eu un rapprochement récent avec Tokyo, mais qui était plutôt hostile à la montée en puissance des capacités d'action militaire du Japon. Et en revanche, en Asie du Sud-Est, en tout cas dans tous les pays de la façade maritime de l'Asie du Sud-Est, je pense notamment au Vietnam, aux Philippines, mais également Singapour, l'Indonésie, la Malaisie ont évolué également sur ces questions-là, eh bien, une attente beaucoup plus grande, y compris à l'égard du Japon, une sorte d'arc de containment, d'équilibre face à la puissance chinoise, qui implique aussi les États-Unis, et qui fait qu'on a l'impression d'assister à une véritable rebipolarisation en Asie, entre la Chine et son allié d'un côté, c'est-à-dire la Corée du Nord, et puis de l'autre côté, le reste du monde asiatique qui s'en inquiète.
Alors, rebipolarisation, Daniel Schaeffer, sur les îles Senkaku et Daoyu, je suis sûr que vous avez des choses à rajouter. Est-ce qu'on peut imaginer que la nouvelle loi donc sur la sécurité nationale japonaise donne davantage de poids au Japon, au risque peut-être de dépasser une... Je ne sais pas comment on doit l'appeler, on n'aime pas beaucoup les lignes rouges tout de même, Daniel Schaeffer.
Oui, le risque, c'est celui d'une initiative malheureuse d'un subordonné, qu'il soit japonais ou chinois, pour déclencher les hostilités. Mais il n'y a pas que le problème des Senkaku. Depuis avril 2012, quand les Japonais ont racheté trois de ces îles à un particulier pour la nationaliser, c'est ce qui a mis le feu aux poudres. Tout le monde a dit que c'est à cause du pétrole qu'il y a dans les Senkaku, ce qui est faux. Il n'y a pas de pétrole là, et le pétrole est beaucoup plus au nord, et en particulier le gisement de Chuansiao, pour lequel un accord cadre a été conclu en 2008 entre les deux pays, mais qui n'a pas été suivi par des accords techniques. Donc les Chinois continuent à aspirer le pétrole dans cette région-là, et puis les Japonais crient au scandale parce que de leur côté ils ne peuvent pas y accéder. Il y a d'autres gisements de pétrole qui sont encore plus au nord, entre cette région-là et puis la Corée, qui s'échelonnent tout le long de cette ligne médiane. Donc il y a un problème sur les Senkaku, mais il y a un problème sur l'ensemble de la mer de Chine de l'Est, puisque les Chinois revendiquent un droit à plateau continental complet, c'est-à-dire jusqu'à la fosse d'Okinawa, ce qui est contraire à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, puisque lorsque deux États se partagent une mer et se font face, ils doivent la partager selon la ligne médiane. Donc, première entorse des Chinois, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. L'autre chose extrêmement importante, c'est qu'il y a 2 ans, quelque chose comme ça, les Chinois ont décidé de déterminer une zone d'identification et de défense aérienne au-dessus de la mer de Chine méridionale, sur une zone qui correspond pratiquement à ce qu'ils revendiquent en termes de plateau continental, et applique à cette zone des règles qui sont strictement identiques à celles qui consistent à identifier des objets volants, quels qu'ils soient, qui pénètrent sur le territoire japonais à partir du moment où ils ont atteint les limites de la mer territoriale. Donc les Chinois outrepassent des règles internationales, et comme les compagnies aériennes tiennent absolument à la sécurité de leurs passagers, eh bien elles se conforment à cette loi unique chinoise. Donc ça, c'est un problème sur la mer de Chine de l'Est.
Alors il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, juste un petit complément. Effectivement, Valérie, vous le disiez très bien. Donc on a une puissance montante, un régime instable. Juste préciser que le budget de la défense chinois, c'est quand même le deuxième du monde maintenant. Il y a encore un rapport du simple au double avec le budget américain. Simplement, on sait quand même qu'il y a beaucoup de dépenses relatives à la défense chinoise qui sont en fait occultes. Enfin, disons en tout cas, pas comptabilisées dans les statistiques du budget de la défense à proprement parler, comme les dépenses, le programme balistique et nucléaire, ce qui, vous voyez, est un exemple, non des moindres. Donc, ensuite, sur les Senkaku, effectivement, il y a cette question de la ligne médiane, c'est-à-dire que les Japonais appliquent la ligne médiane qui est conforme à la Convention de Montego Bay. Ce qui est très intéressant, c'est que les gisements, ils sont partout, il y en aurait probablement d'autres, simplement les Chinois les ont placés sur la ligne médiane. Ce qui est un signe, malgré tout, en dépit de la multiplication d'incursions territoriales chinoises côté japonais, il y a moins d'incursions de sous-marins, mais plus d'incursions d'avions. Eh bien, c'est un signe malgré tout que la Chine reconnaît pourtant les limites territoriales japonaises. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas aller au clash avec le Japon. Et en effet, les plateformes d'exploitation chinoises ont été placées sur la ligne médiane. Donc, c'est pas un hasard, évidemment. Ça mécontente les Japonais, en effet, parce que, en prenant dans les ressources du sous-sol, eh bien, évidemment, les Japonais s'estiment spoliés en quelque sorte parce que les Chinois prennent dans des ressources communes. Et donc, en effet, il y a eu un accord cadre signé en 2008 qui, en fait, n'a pas été suivi d'application. Ça, c'était le premier élément. Ensuite, en effet, on constate que la Chine, alors c'est pas tout à fait la même problématique sur les Senkaku et sur la mer de Chine méridionale. Disons qu'en fait le sentiment des Japonais, c'est que étant donné qu'ils ont un gouvernement qui sait faire face, et bien dans une large mesure ils arrivent néanmoins à contenir la puissance chinoise face à eux. C'est pas le cas en mer de Chine méridionale où en effet il y a eu un clash en 2014 avec le Vietnam. Finalement la Chine s'est retirée. Les Philippines, elles, font un procès à la Chine, mais la Chine devant la cour arbitrale, il y a une procédure en cours, mais donc effectivement la Chine construit progressivement des plateformes en fait en définitive en mer de Chine méridionale, qui lui donneront la possibilité de bloquer en fait cette zone. Parce qu'en fait, ce qu'elle fait, donc pour parler droit maritime international, c'est qu'elle transforme des récifs, des îlots en îles. Et donc, elle les dote ensuite de compétences territoriales, c'est ça. Avec la distinction, en effet, entre les pays, donc ce qu'évoquait Valérie Niquet, les pays donc qui ont une frontière maritime avec la Chine se rapprochent du Japon, donc c'est le cas des Philippines, c'est le cas du Vietnam, dans une moindre mesure de l'Indonésie, de la Malaisie, de Singapour. Il y a donc un clivage qui apparaît dans l'ASEAN entre ces pays qui ont une frontière maritime commune avec la Chine et qui donc se heurtent à des difficultés réelles et qui donc se rapprochent du Japon et des États-Unis, et d'autres pays de l'ASEAN comme le Cambodge, le Laos, la Birmanie, qui eux, au contraire, sont très dépendants de la Chine, très proches de la Chine, et ça empêche une position unifiée au sein de l'ASEAN.
Donc des attentes, hein, Valérie Niquet, assez fortes vis-à-vis du Japon. C'est peut-être le moment de parler de la Corée du Nord.
Oui, alors effectivement, on n'en parle pas parce que c'est une menace qui paraît tellement évidente, mais plusieurs éléments. Pour le Japon, la Corée du Nord est une vraie menace, elle continue d'être placée, d'ailleurs même si la Chine inquiète, elle continue plus d'être placé au premier rang des menaces listées dans les livres blancs de la défense japonais, par exemple, parce que la Corée du Nord poursuit à la fois son programme nucléaire et balistique. Donc on voit bien que la Corée du Nord ne veut pas simplement se doter d'une arme nucléaire qui serait en quelque sorte symbolique mais pas véritablement utilisable, mais elle est en train d'essayer de se doter des moyens d'utiliser, donc d'avoir une véritable capacité dissuasive entre guillemets, mais même si ça restera très relatif. Et donc c'est aussi l'échec du système de non-prolifération et du système des sanctions, à la fois parce que la Corée du Nord a finalement toujours et continue, même si les Chinois sont très agacés, de bénéficier d'un soutien minimum de la part de Pékin, mais qui permet au régime de survivre et de poursuivre son programme nucléaire. Mais les sanctions, donc, n'ont que très peu d'effet. Et donc, face à cette menace nord-coréenne qui est tout de même très directe pour le Japon, les missiles, on parle beaucoup des missiles Taepodong qui pourraient frapper le continent américain et qui, pour le moment, n'en sont pas capables. Mais d'ores et déjà, l'archipel japonais peut être frappé par les missiles Nodong à plus courte portée et qui, eux, fonctionnent parfaitement. Donc, avec une association possible à plus ou moins long terme avec une arme de destruction massive, c'est un risque très direct sur le Japon. Et à chaque crise, la Corée multiplie encore une fois les gesticulations militaires. Donc il y a quelques semaines encore, a tiré plusieurs missiles d'essai plus ou moins dans la mer du Japon, qui évidemment n'était pas destiné à toucher le territoire japonais. Mais on vit sous cette menace qui est tout de même très réelle, même si en toute rationalité, on se doute bien que le régime nord-coréen ne se lancera pas dans un conflit nucléaire qui signerait sa fin certaine. Mais en termes de ciblage, il est certain que le Japon est très directement sous la menace que fait peser, d'une manière de plus en plus crédible, le régime nord-coréen.
Alors, Guy Bourdelamotte ?
La Corée du Nord, effectivement, c'est une menace importante. Depuis quelques années, les agences de renseignement sud-coréennes supposaient que la Corée du Nord avait la capacité de miniaturiser ses armes nucléaires. La Corée du Nord l'a confirmé il n'y a pas longtemps. Bon, c'est toujours difficile de vérifier ce que dit la Corée du Nord, mais en revanche, les agences de renseignement sud-coréennes sont assez bien renseignées en principe. Mais on a surtout un État qui, disons que... Il est surtout très compétent dans sa manière de gérer cette menace. C'est ça qui est intéressant. Alors la menace, c'est comment ils font face les gouvernements, parce que sérieuse ou non, esbrouf ou non, il faut de toute façon se parer au pire possible. Et donc les gouvernements, le gouvernement japonais avec les États-Unis a développé un système de défense antimissile qui est, semble-t-il, assez performant, puisque les batteries Aegis sur les frégates japonaises américaines peuvent neutraliser, semble-t-il, jusqu'à une centaine de missiles, ce qui permettrait de faire face à une attaque éventuelle. C'est sur le parapluie nucléaire américain aussi que contre le Japon. Mais en effet, c'est surtout, on a surtout un État qui, disons, il perturbe par effectivement ses déclarations intempestives, etc. Mais il faut y voir beaucoup de talent, en fait, diplomatique.
Valérie Niquet, la Russie, l'alliance entre Moscou et Pékin, c'est quelque chose qui inquiète là aussi le Japon.
Alors en fait, la relation avec la Russie entre Tokyo et Moscou est très complexe. Avec l'arrivée au pouvoir du ministre Abe, on avait assisté à un véritable rapprochement entre Moscou et Tokyo, qui, je le rappelle, n'ont toujours pas signé de traité de paix, ont des relations diplomatiques, et la question des Kouriles, des territoires du Nord, n'est toujours pas résolue non plus. En tout cas, vu du côté japonais. Je crois que M. Abe et Vladimir Poutine se sont rencontrés presque une quinzaine de fois en l'espace très court, depuis 2012. Après, il y a eu une interruption qui a suivi l'affaire ukrainienne, mais on voit bien que le Japon est extrêmement embarrassé, voudrait reprendre les discussions et... Il semble pas tant pour résoudre rapidement la question territoriale ou la signature d'un traité de paix, même si c'est ce qui est mis souvent en avant, notamment dans la presse, mais pour tenter de rétablir un partenariat stratégique avec Moscou, encore une fois dans la logique qui est d'équilibrer la puissance chinoise. Les Japonais considèrent que le partenariat stratégique entre Moscou et Pékin n'est sans doute pas si solide qu'on veut bien le dire, et ils pensent que l'isolement de la Russie, même s'ils comprennent les raisons et s'ils ne veulent pas se couper de leurs alliés américains ou occidentaux, n'est pas de bonne stratégie et en tout cas ne répond pas à leurs propres intérêts stratégiques en Asie, l'intérêt principal étant d'équilibrer ou de d'éviter que la puissance chinoise ne se lance dans des actions qui seraient plus déstabilisatrices qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc il va y avoir de toute manière, il est question que M. Abe aille en Russie très prochainement, l'invitation à Vladimir Poutine tient toujours et certains à Tokyo mettent en avant l'idée d'un découplage entre les questions territoriales, le traité de paix et le rapprochement stratégique avec Moscou.
Et alors, pour terminer, ce sera la dernière question. Finalement, comment est-ce que l'Europe est identifiée par le Japon? Je ne sais pas qui souhaite répondre. Guy Bourdelamotte et Général Schaeffer, quelques mots ensuite.
L'Europe est devenue un partenaire plus important pour le Japon, toujours dans la logique donc de rééquilibrage. C'est-à-dire l'Europe, pas tellement les institutions elles-mêmes, même si elles ont leur importance, mais bon, là on est dans une logique tout à fait différente. On reste en fait dans une logique bilatérale pour les questions de sécurité beaucoup. Et donc, on parlait de Moscou, il y a un dialogue de plus deux avec Moscou, donc ministre des Affaires étrangères et de la Défense. Pareil avec la France, avec le Royaume-Uni, il y a une coopération dans le domaine de la défense qui est très poussée également maintenant, et un dialogue soutenu et des coopérations concrètes industrielles qui ont été mises en place. Donc on est, avec l'OTAN, il y a un dialogue plus soutenu depuis 2007 également, avec des observateurs japonais qui sont envoyés. On est dans une logique de rapprochement, effectivement, à la fois industriel, à la fois sur le plan du renseignement, et puis du dialogue stratégique. Et on parlait de la perception chinoise. Autant quand Monsieur Sarkozy était au pouvoir, les Japonais avaient le sentiment que la France était dans une logique de dialogue avec la Chine qui les gênait beaucoup, de coopération avec la Chine, de main tendue, etc., qu'ils étaient complètement en décalage sur le plan de la perception de la menace chinoise. Autant depuis l'arrivée de François Hollande au pouvoir, il y a le sentiment qu'il y a eu un rapprochement. Je crois que les événements en mer de Chine méridionale ont contribué à une sorte de réveil français peut-être, et qu'effectivement il y a davantage, on voit même dans la presse beaucoup plus d'articles paraître un peu plus réaliste ou enfin en tout cas en accord avec ce que les analyses japonaises paraissent. Donc là, il y a un rapprochement qui s'est fait et tout ça va de pair, c'est-à-dire qu'effectivement le dialogue peut se renforcer dès lors que la vision stratégique est convergente.
Alors pour conclure, je ne sais pas si j'ai envie de parler de retour du Japon, mais on peut sans doute évoquer une présence plus assise du Japon dans la relation internationale, Daniel Schaeffer.
Je ne peux pas vous contrarier sur ce sujet-là, c'est tout à fait juste. Je voudrais quand même revenir sur un certain nombre de choses en ce qui concerne le rapport du Japon à l'Europe. Il faut quand même rappeler que lorsque François Hollande est allé au Japon, il a quand même dit ne me donnez pas à choisir entre le Japon et la Chine. Donc on sent que la France est gênée un petit peu sur ce sujet-là, sachant que par certains côtés, la France vend des composants d'armement à la Chine malgré l'embargo qui existe toujours depuis les événements de juin 1989. Donc je dirais que la France a une position ambiguë sur ce sujet-là. En ce qui concerne la prise de conscience de l'Europe, oui, elle existe même en France, pas très forte, et je pense qu'il faut saluer les efforts de l'European Council of Foreign Relations sur cette question, parce que c'est vraiment le centre d'alarme de la réalité de la menace, entre guillemets, chinoise à l'égard non seulement de l'Extrême-Orient, mais d'une manière générale, je dirais, d'une reste du monde, pas sur le plan militaire, mais sur le plan économique.
Merci, Général Schaeffer. Très rapidement, Guy Bourdelamotte et Valérie Niquet.
Oui, l'embargo sur les armes, effectivement, le problème, c'est qu'on a, chaque État a une législation sur le double emploi possible des armes et l'applique à sa manière. Et donc, effectivement, les Français n'exportent pas, ils respectent l'embargo en théorie, mais aux yeux des Japonais, en effet, ils sont les premiers à le dire, on exporte parfois des éléments qui peuvent être à double usage. Et donc ça gêne en effet les Japonais. Mais c'est bien depuis 2012 qu'un dialogue de plus deux a été mis en place et qu'un rapprochement s'est opéré. Il est tout de même très net. Et c'est ce qui compte malgré tout.
Valérie Niquet, conclusion très...
Juste pour conclure, le véritable retour du Japon sur la scène internationale se fera, et c'est un problème qui le dépasse évidemment très largement, si un jour il peut être intégré au sein du Conseil de sécurité de l'ONU aux côtés d'autres puissances comme l'Inde par exemple, avec un droit de veto qui permettrait de rééquilibrer rééquilibrer le poids du Japon sur la scène internationale par rapport, par exemple, à celui de la Chine.
Et on peut craindre que cela prenne du temps. Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Daniel Schaeffer, qui était avec nous par téléphone, général en deuxième section et membre du groupe de réflexion Asie 21. Valérie Niquet, maître de recherche responsable du pôle Asie pour la recherche stratégique. Et Guy Bourg-Delamotte, maître de conférence à l'INALCO, chercheuse au Centre d'études japonaises et à l'ECFR, qu'évoquait à l'instant le général Schaeffer, le European Council on Foreign Relations, et aux séries Sciences Po. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook. Géopolitique, le débat, émission signée Marie-France Chatin, Éléonora Farad et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée aux séries télévisées. Nous parlerons de Games of Thrones, Homeland et Occupied, pour ne parler que de quelques-unes. À demain.